Salut, c'est Alexis, on est le 17 juillet 2025 et j'ai pas fait de note vocale depuis une dizaine de jours, je crois. Je me suis laissé déborder par différentes choses et surtout, du coup, bah, plus j'ai accumulé des choses dont je voulais parler dans une note vocale, plus j'ai repoussé le moment de la faire. Ce qui est exactement l'inverse de ce que je m'étais promis que j'allais faire, c'est-à-dire de vraiment faire des petits épisodes courts pour commenter les choses un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, je me suis laissé déborder, j'ai pris quelques jours de congé, j'étais en vadrouille, je suis allé à Nantes, j'avais beaucoup de travail, enfin bref. Et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, en même temps, c'est la vie, et puis voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup, la conséquence, c'est aussi que j'ai sauté de faire ma newsletter cette semaine. Bon, malgré que je suis convaincu que vraiment c'est hyper important pour les newsletters, et un peu aussi pour les podcasts, d'être régulier. Autant, bon, pour l'instant, j'en suis quand même relativement au début de cette newsletter. J'ai, pour vous donner un ordre d'idée, hein, j'ai entre 300 et 400 abonnés, je ne sais plus exactement où on en est. Donc voilà. Mais ça ne change rien parce que j'essaye de ne pas trop regarder les chiffres et j'essaye de m'astreindre à faire les choses de manière récurrente. Il y a une forme de discipline là-dedans qui me paraît très importante. Or, je me suis laissé un peu déborder par le quotidien, ce que je n'aime pas. Je n'aime pas cette situation. Mais voilà, il y a pas mal de choses, de sujets en ce moment, un peu de charge mentale. Il y a des choses dont j'espère que je pourrais vous parler plus peut-être à la rentrée ou en tout cas avant la fin de l'année. Des choses assez conséquentes. On est en train de faire la cohorte du Cercle des Ops qui se passe hyper bien. Et voilà, j'essaie d'y mettre quand même aussi un peu d'énergie et puis de préparer la suite du Cercle des Ops. Bref, voilà, il y a plein de choses. Bon, ça, c'était le petit point. Mais voilà, c'est pas grave. Donc là, du coup, je pense qu'on va partir sur un épisode un petit peu fourre-tout. Parce qu'il y a pas mal d'actu, surtout sur le côté no-code, donc ça va être un épisode peut-être un petit peu spécial no-code, où je vais, alors évidemment il y a toujours un fond d'IA un petit peu partout, il y a des choses que je vais peut-être un petit peu survoler, mais bon, voilà, on va se faire ça, et puis il y a des choses sur lesquelles on reviendra, sur des focus un petit peu plus, comme j'ai fait là récemment, j'ai bien aimé faire des épisodes un petit peu focus, comme ça, juste sur Airtable, ou juste sur un sujet, donc on verra. Mais bon, là, on va être un peu sur un fourre-tout, d'autant que notre ami Benoît de Monteclerc, qui fait une newsletter sur le no-code, donc a repris sa newsletter. Lui aussi, il avait fait un break de plusieurs mois. Je pense qu'il a eu des sujets un peu à traiter avec la fin de NCScale et tout. Mais il a repris sa newsletter, et donc c'est top. Vraiment, je vous mettrai le lien, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Donc moi, ça fait partie des sources de ma veille. Et donc voilà, donc forcément, bah, du coup, comme il l'a mis, bah, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées du coup dans ma veille dont j'avais envie de parler. Donc voilà, je vais me concentrer sur la partie no-code et la partie IA. Notamment, il y a eu pas mal de news sur Lovable, mais j'en parlerai dans un prochain épisode. Donc là, voilà, je mets ça de côté. D'autant qu'il faut que je teste certaines choses avant de vous en parler. Alors, côté no-code, il y a eu pas mal de news que je vais vous commenter. Alors, première news, c'est Grammarly, qui est la société, donc qui est une société très connue aux États-Unis, un peu moins en France, qui est un outil de correction orthographique qui existe depuis pas mal de temps, qui marche très très bien, et qui a l'année dernière acquis Coda. Voilà, Coda, que vous connaissez peut-être, qui est un outil no-code, qui permet de faire des outils de productivité, qui est un outil qui a une belle petite communauté hein, maintenant, une petite dédicace à Élise et à Franck et aux gens de la communauté Coda en France. Donc il y a un outil qui, voilà, qui peut, on pourrait le dire, qui concurrence Notion, qui concurrence Airtable. Ça dépend un petit peu comment vous vous situez. On en a un peu parlé à la No-Code Week. Voilà, c'est un outil qui est un petit peu de niche, mais qui a une communauté d'utilisateurs assez fidèle et qui est un outil très intéressant. Et donc Coda a été racheté par Grammarly l'année dernière dans un move, a priori, qui était interprété, enfin qui était de dire, voilà, Grammarly va aller à fond sur l'IA. Et donc, le premier move dans cette direction, c'est d'acquérir Coda, qui est un outil un petit peu généraliste, où il y a de l'IA, mais qui est aussi un outil généraliste. Et donc, pas mal de gens se sont demandé bah, pourquoi ça s'est fait comme ça. D'autant que le CEO, donc le président, le fondateur de Coda, est devenu le CEO de Grammarly. Donc voilà, donc il y a un move assez intéressant. Grammarly, c'est un outil très très spécialisé, où il y avait de l'IA, forcément, de manière intrinsèque, hein, sur la correction d'orthographe. Mais donc voilà, donc ça c'était un move. Et donc il y a eu un nouveau move dans une direction qui était celle que je m'attendais. Ils ont acheté un outil de gestion d'email qui a beaucoup d'IA, qui est un outil qui date de avant l'époque de l'IA des LLM, qui s'appelle Superhuman, qui était un outil déjà qui essayait de révolutionner un petit peu la productivité, la gestion de sa boîte mail. Et donc, où ensuite sont rajoutés beaucoup d'IA très très vite, évidemment. Et donc, voilà. Et donc, ils ont acquis ça. Et donc, pour moi, bon, le move, il est très simple. Hein, c'est-à-dire que quand ils ont dit, bon, Grammarly devient vraiment une plateforme de productivité autour de l'IA, quand ils ont acquis Coda, ben, forcément, le côté plateforme, eh ben, suit un petit peu le mouvement initié par Notion, qui est de ce que je dirais, d'aller sur un peu sur une suite de bureautique. Voilà, on avait depuis très longtemps la suite bureautique de Microsoft, Microsoft Office, puis on a eu un concurrent Google Workspace, bon, ils ont changé de nom, ça s'appelait G Suite au début, et puis maintenant c'est Google Workspace. Donc voilà, avoir au même endroit vos emails, votre tableur, votre outil de prise de notes, de traitement de texte, etc. Des choses que peuvent déjà faire Coda en partie, mais pas la gestion des emails, pas la gestion du calendrier. Pareil pour Notion. Donc Notion a acquis un outil de gestion de calendrier, un outil de mail, et voilà, tout ça fait que bah, Notion aujourd'hui a Notion Mail, Notion Calendar, Notion tout court, et tout ça va autour. Notion pousse très très fort sur l'IA avec des choses très fortes, notamment tout ce qui est transcription, audio, traitement, aussi des comptes rendus de réunion, toutes ces choses-là. Enfin, donc c'est une très belle suite, et je pense que Grammarly essaye de faire la même chose. Je pense qu'à un moment ou un autre, ils vont se rebrander aussi, hein, évidemment, parce que là, le nom n'a pas vraiment de sens. Mais tout ça, ça va venir dans une suite. Et donc, il y a vraiment toute une tendance, voilà, autour de la bureautique moderne, un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Contournement. Hein. Ce terme de bureautique moderne, d'ailleurs, c'est un terme que Erwan utilise beaucoup. C'est lui le premier que j'ai entendu utiliser. Donc, vraiment, c'est ça un peu, cette bureautique contemporaine. Voilà, se dire que c'est, la bureautique, c'est pas juste traitement de texte, tableur, email, mais c'est aussi comment utiliser ça, comment se créer ses propres outils en les dérivant des outils un petit peu de base, on va dire, qui sont l'email, etc. Et donc, c'est complètement ce que propose Notion et ce que propose maintenant Coda via Grammarly, et probablement. Donc voilà, c'est une vision que je trouve très intéressante, qui est un petit peu en marge du no-code, quelque part, qui est dans la vision étendue un petit peu du no-code. Mais c'est ça, pour moi, depuis longtemps, la vision du no-code, c'est pas juste de lancer des startups, de faire des produits, c'est de s'outiller, de travailler mieux, de manière plus efficace, travailler moins éventuellement, si possible, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça me valide un petit peu dans cette vision de voilà, ce move de Grammarly, que je trouve très intéressant, qui a eu lieu il y a quelques semaines hein, déjà, mais bon, voilà, un petit peu de... Voilà, donc ça, c'était sur le côté un petit peu bureautique. Allons voir un petit peu les autres news qu'il y a eu. Alors, l'autre news à laquelle j'ai un petit peu fait attention, c'est un outil que je suis depuis un moment, dont je parle une fois de temps en temps, qui s'appelle ActivePieces, qui est pour moi le quatrième outil d'automatisation le plus intéressant. Les trois outils principaux étant Zapier, Make et N8N, évidemment. Je l'ai dit dans l'ordre aussi de la complexité et puis aussi dans l'ordre de leur adoption et peut-être même dans l'ordre de leur genèse. Je suis sûr même que c'est ça. Hein. Zapier est l'outil le plus ancien. C'est aussi le plus simple à utiliser. Make est venu après. Et il est un petit peu plus puissant, mais aussi un petit peu plus complexe à prendre en main. Et N8N est arrivé encore après. N8N est là complètement, beaucoup plus puissant, avec des aspects de licence un petit peu open source et tout, qui n'est pas complètement open source hein, d'ailleurs. Et puis ActivePieces est arrivé. Et ActivePieces propose, je trouve, de chambouler un petit peu tout, parce que c'est d'une part déjà un outil qui est complètement open source, avec une vraie licence open source, contrairement à N8N. Mais c'est un outil que je trouve qui s'est inspiré des trois outils que je citais précédemment pour proposer une interface qui est quand même plutôt accessible. Voilà, d'un point de vue visuel, etc., on est quand même plutôt sur quelque chose qui se trouve entre Zapier et Make. Alors, il y a des limites. Un des gros problèmes d'ActivePieces, c'est évidemment qu'il y a très peu d'intégration. Enfin, il y en a, mais il y en a beaucoup moins que dans la concurrence. Et puis que ces intégrations, des fois, elles sont un petit peu difficiles à prendre en main, à connecter, parce qu'elles ne sont pas aussi fluides que dans Zapier, où on met juste, hop, on se connecte à travers une authentification, et puis on a tout de suite accès à tout son Gmail et tout. Dans ActivePieces, c'est un petit peu plus technique. Mais je trouve ça très prometteur. C'est une petite équipe qui est derrière, qui est une équipe qui est très tech. Et néanmoins, de ce que j'ai discuté avec eux déjà, et c'est néanmoins, ils sont quand même, je trouve, d'un point de vue ergonomie et tout, assez bons. Donc c'est assez cool. Évidemment, vous imaginez bien qu'ils ont pris tout le tournant de l'IA également, serveur MCP et compagnie. Et là, ils viennent d'introduire deux choses très intéressantes. Enfin, plus ou moins intéressantes, on va dire. Une première chose qui sont les agents. C'est la version 2.0 des agents. Je ne suis pas méga fan, mais bon, ils l'ont fait, vous pouvez aller voir. Et puis, il y a ils ont changé aussi leur pricing, et notamment, ils ont fait quelque chose que je trouve très, très audacieux, qui est que maintenant, leur prix inclut des tâches illimitées. Vous payez un abonnement et vous avez un certain nombre de scénarios auxquels vous avez le droit, mais par contre, ces scénarios peuvent se déclencher autant que vous voulez. Et ça, je trouve ça très audacieux, je trouve ça très intéressant, parce qu'évidemment, bah, c'est un gros différenciateur par rapport à tous les autres outils. Hein. Et d'ailleurs, ils ne manquent pas, hein, dans leur communication, de mettre ça en avant. Ils ont une communication qui est un petit peu agressive, je trouve, ActivePieces. Après, c'est normal, hein, quand on est un challenger. Mais des fois, bon, je trouve que c'est un petit peu border, mais bon, voilà, ils tapent un peu beaucoup sur leurs alternatives. Bon, moi, je trouve que c'est bien aussi d'avoir toujours un petit peu d'humilité quand on arrive après. Mais bon, c'est aussi, ça fait partie du game. Mais donc, voilà, donc, d'un point de vue pricing, ActivePieces est extrêmement intéressant. C'est le plus intéressant de tous les outils. D'un point de vue agent, c'est intéressant, mais il y a un peu de confusion, je trouve, dans ce qu'ils proposent autour des agents, où je trouve qu'ils ont tenté un truc qui n'est pas aussi bien fait que ce soit sur... Zapier et Nuiten, je trouve, ont très très bien réussi, tout ce qui est agent, et Nuiten les premiers d'ailleurs. ActivePieces, bon voilà, il y a un peu de confusion aussi entre des automatisations. En fait, quelque part, leurs agents, c'est juste des automatisations que l'on va coder un petit peu en langage naturel. Mais c'est un peu confus. Leurs agents, il faut les mettre à l'intérieur de scénarios. De toute façon, ils ne sont pas autonomes, vraiment. Enfin, ils sont autonomes dans le sens où, c'est, en fait, ils viennent à l'intérieur d'un scénario, donc il faut qu'il y ait un déclencheur, comme dans une automatisation normale. Mais bon, voilà, c'est intéressant, je dirais pas, mais c'est un petit peu, je trouve, confus comme paradigme. Voilà, bon, voilà, ça c'était les deux news un petit peu intéressantes. Autre news quand même importante, bon, alors là, quelque part, qui est entre le no-code et le vibe coding, c'est nos amis de chez WeWeb qui ont refait leur landing page avec un nouveau design, d'une part, plus fort, un terme pas du tout adapté, mais bon, voilà, un petit peu plus aussi audacieux. Ils avaient refait leur logo récemment, puis là, voilà, c'est un fond sombre, avec des couleurs orangées, c'est audacieux aussi, je dirais. Mais voilà, ça présente leur vision, et notamment, bah, ça présente quelque chose, c'est que leur landing page se présente exactement comme celle de Bold, de Lovable, de tous les nouveaux outils d'IA. Hein. C'est très simple, une grosse invitation à venir indiquer ce que vous voulez faire. Voilà, un prompt. Donc là, littéralement, c'est vraiment un prompt, c'est normalement quand on demande à quelqu'un de donner une information. Maintenant, le terme, c'est un petit peu inversé puisque c'est ce que l'on va donner à une IA pour faire des choses, mais normalement, c'est voilà. Donc, ça vous invite, c'est une invitation à tout de suite créer une application. Donc, voilà, j'aime bien, ça montre bien à quel point, quelque part aussi, WeWeb s'extrait un petit peu des codes du no-code, pas avoir de code dans le no-code, mais des codes symboliques de communication de l'écosystème no-code pour aller plutôt vers ceux du vibe coding. Évidemment, c'est normal, c'est leur vision. C'est très intéressant ce qu'il propose, avec aussi une vision, on en avait parlé, hein, n'hésitez pas à réécouter l'interview que j'avais fait avec Raphaël, le fondateur de WeWeb, qui date un petit peu déjà, mais qui est hyper intéressante, qui est de dire que voilà, vous allez pouvoir être assisté dans votre utilisation de WeWeb. WeWeb est un outil puissant, qui n'est pas toujours facile à prendre en main, vous pouvez vous y former pour le prendre en main, mais vous pouvez aussi désormais utiliser de l'IA, et aussi solliciter, de manière conversationnelle également, de l'équipe de WeWeb, le support de WeWeb, pour qu'ils vous fassent des choses pour vous. Et donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce qu'on est sur un double paradigme, un triple même, programmation visuelle, programmation conversationnelle assistée par IA, et programmation pair programming conversationnelle avec un humain qui peut aussi faire des choses pour vous. Et tout ça vous consomme des crédits, mais vous avez toujours la possibilité de retomber sur la programmation visuelle qui nécessite quelques petites compétences, mais que vous pouvez acquérir. Il y a plein de formations, hein, qui existent, et la WeWeb Academy aussi est très bien faite, en anglais uniquement, malheureusement, mais peut-être un jour en français, on ne sait pas. Bon. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, WeWeb, grosse mise à jour. Le pendant, donc WeWeb, c'est du front-end. Le pendant, un petit peu back-end de WeWeb, c'est Xano. Et Xano, eux aussi, ils ont annoncé des choses. Alors, je ne vais pas en parler trop, parce que ça, justement, là, je vous dis juste ce dont on m'a parlé, ce que j'ai lu aussi dans la newsletter de Benoît, qui est voilà, un shift agentique qu'ils vont lancer cet été, qu'ils ont lancé cet été déjà. Donc voilà, tout va devenir un peu AI-powered, c'est-à-dire fourni par l'IA chez Xano. C'est un peu finalement un petit peu comme chez WeWeb, hein, c'est-à-dire que vous aurez toujours probablement chez Xano la possibilité de construire vos bases de données, vos API de manière visuelle. C'était la grande force de Xano. Mais vous aurez aussi la possibilité d'utiliser des agents pour demander de construire les bases à votre place, etc. Tout comme le fait Airtable hein, désormais. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Je ne suis pas un utilisateur de Xano, donc je ne vais pas vous en parler tant que ça, mais je vais quand même commenter un truc qui me paraît intéressant, c'est qu'ils ont introduit un nouveau plan de pricing plus accessible à $29 par mois. Et donc ça, c'est bien quand même, parce que ça, c'est un move, je trouve, qui est bien à destination de l'écosystème no-code et des makers, parce qu'avant, leur prix était quand même très élevé. Donc ça, c'est quand même bien, ça va permettre d'abaisser un petit peu. Voilà, ça reste, c'est pas, il y a un plan gratuit aussi, hein, si vous voulez tester. Vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser en production, mais pour tester, c'est bien. Mais voilà, donc Xano, et donc le duo WeWeb-Xano aussi permet de plus en plus aux gens d'utiliser. Évidemment, WeWeb aussi se connecte très bien à Supabase, mais bon, Supabase, il n'y a pas la partie visuelle. Enfin, c'est quand même un peu rude d'un point de vue interface, mais bon, ça c'est un sujet d'ailleurs dans une vidéo qui arrive sur ma chaîne YouTube, un portrait de VibeCoder de Nicolas, où on parle un petit peu de ça, n'hésitez pas à aller voir. Elle n'est pas encore sortie au moment où je vais sortir ce podcast, donc voilà, il faudra voir après. Du côté de chez Glide aussi, Glide, on n'entend plus trop parler, mais évidemment, ils essayent aussi un petit peu de proposer des choses d'agents, etc. Donc voilà, je ne suis pas allé voir, j'ai vu ça dans la newsletter. J'irai tester éventuellement, mais en fait, Glide, c'est un outil que je n'utilise plus du tout. Leur pricing aussi est devenu quand même un peu prohibitif pour les makers, je trouve. C'est un outil que j'aime bien, je respecte beaucoup, mais que j'utilise moins. Mais donc voilà, évidemment, on peut s'en douter, ils utilisent un tech de l'IA un peu partout. Vous pouvez générer de la donnée, vous pouvez générer des composants avec de l'IA. C'est des choses qu'ils ont montré déjà depuis un moment, mais là, ça commence à devenir un peu sérieux. Donc voilà, mais bon, il y a des limites encore aussi. Donc il y a toujours aussi un peu des effets d'annonce. On verra. Dernière annonce que j'ai trouvée intéressante, c'est nos amis de chez Tally, outil de formulaire. Que j'adore, que j'aime beaucoup, mais parce que j'aime beaucoup les gens qui sont derrière, je pense aussi, surtout. Mais bon, non, c'est un outil d'ailleurs que j'utilise aussi par défaut. Hein, quand je dois faire un formulaire, c'est ce que j'utilise par défaut. Donc voilà, c'est hyper cool. Ils ont une API qu'ils ont proposée depuis un moment, depuis relativement récemment, qui est assez cool. D'ailleurs, on a des gens dans la cohorte du cercle des Ops qui s'en sont servis, donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'elle permet, cette API? Elle permet de créer, notamment, de manière automatisée, des formulaires. De créer à la volée des formulaires. Donc, vous pourriez faire des automatisations avec Make, par exemple, qui crée des formulaires Tally. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez des nouveaux projets, vous avez besoin d'un formulaire qui est adapté, vous pouvez le faire de manière dynamique. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et forcément, une fois qu'on a fait une API comme ça, on peut faire plein de choses par-dessus. Et notamment, maintenant, grâce au protocole MCP, eh bien, on peut piloter Tally, littéralement, depuis son ChatGPT, depuis son Claude, en utilisant le serveur MCP qui fait l'intermédiaire entre l'API de Tally et puis le LLM, l'assistant IA. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que je crois qu'ils l'ont vraiment bien fait. On peut vraiment bien exploiter Tally, même demander à Claude, par exemple, de créer un formulaire. Ça, c'est un truc qui va beaucoup me servir parce que moi, ça m'arrive souvent, typiquement, à la fin de la cohorte du Cercle des Ops, je vais avoir un petit formulaire de satisfaction, etc. à faire. Franchement, ça va relativement vite de faire un formulaire avec Tally, mais moi, c'est un truc qui me fait chier. Je vais être honnête, faire des formulaires, c'est un truc vraiment, je sais pas pourquoi, j'aime pas ce paradigme. Donc, j'ai jamais trouvé un outil où ça évite. La seule manière de faire rapide que j'ai trouvé, c'est de faire une base Airtable, puis de faire le formulaire qui va avec. Mais les formulaires Airtable sont quand même très, très limités. Donc voilà, là, ça va être avec un grand plaisir que je vais pouvoir demander à Claude de me faire mon formulaire Tally, sachant que Claude, en plus, connaît très bien le contexte de la cohorte du cercle des Ops, pardon, genre. Je suis un peu fatigué ce matin. Mais donc, et franchement, je sais que je vais pouvoir lui demander très facilement, ok, vas-y, propose-moi un formulaire, implémente-le dans Tally, ça va être magnifique, ça va me faire gagner du temps. Voilà, là, on commence à avoir des usages très concrets, très sympas du MCP, du protocole MCP et des serveurs MCP qui vont avec. Voilà, donc vraiment, c'est comme j'avais dit il y a quelques mois, le buzz est venu trop tôt, je trouve, sur le protocole MCP, comme souvent, vraiment, quelques influenceurs, quelques excités de l'IA sur les YouTube et sur les internets, voilà. Mais voilà, maintenant on y est, ça commence à devenir concret, ça commence à devenir simple, parce que maintenant c'est devenu simple dans Claude de connecter un serveur MCP, en tout cas c'est devenu plus simple, et vous n'avez pas de micmac bizarre à faire comme vous le... Donc voilà, vraiment, pour moi ça me valide encore une fois un peu ce que j'avais dit à l'époque. Prenez le temps, n'ayez pas le FOMO quand 3-4 influenceurs vous parlent de trucs hyper techniques, de bidouilles et tout, sauf si vous avez envie de bidouiller, ça c'est très bien. Mais sinon, prenez votre temps Et vous voyez, maintenant, là, ça y est, ça commence à arriver. Des usages intéressants, des manières simples de mettre en place, de mettre en œuvre ces technologies. Voilà, c'est, pour moi, ça, c'est important. Il ne faut pas céder au FOMO, il ne faut pas céder à la surenchère et aux choses. Et tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà, allez, sur ce, je vais m'arrêter. C'était un petit épisode un petit peu fourre-tout. J'aurais pu vous parler de toute l'histoire autour de windsurf, mais très franchement, ça a été beaucoup commenté. J'ai commenté dans ma matinale, on en a parlé dans l'épisode avec Xavier, même si on n'avait pas le fin mot de l'histoire. Franchement, moi, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est que bon, je suis content qu'il y ait un dénouement. Le fait que windsurf soit acquis par Cognition, bon, on ne sait pas. Moi, ce qui m'a plu à la fin, c'était le message vraiment de windsurf où ils ont dit « et aussi ». Donc, une fois qu'ils ont expliqué tout l'acquisition, tout ce qui s'est fait, et aussi, on s'est réconcilié avec Anthropic. Donc voilà, et ce matin, j'ai reçu un mail qui indiquait que Claude 4 était désormais utilisable avec windsurf. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, il y a peut-être un signal faible dans tout ça autour de OpenAI, mais on en a parlé dans l'épisode avec Xavier. Donc voilà, mais en tout cas, moi, au niveau de windsurf, je suis content qu'il y ait une résolution, qu'on puisse continuer à utiliser. Même si c'est plus mon outil forcément préféré pour le vibe coding. Mais en tout cas, ils sont arrivés à une conclusion. Une partie de l'équipe est partie chez Google. Une partie et le reste, tout le produit en lui-même a été acquis par Cognition, qui est un outil qui faisait déjà un agent IA, mais plutôt professionnel pour les développeurs, qui s'appelle Devin, qui est un outil aussi qui date, enfin qui est vraiment un des premiers outils vraiment d'agent IA de programmation. Donc voilà, ça nous laisse augurer des choses intéressantes. Et je suis content qu'il se soit réconcilié avec Anthropic parce que Claude, pour moi, reste à ce jour le meilleur modèle, le plus polyvalent pour le code et donc par extension pour le vibe coding. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt. Salut.